Classique 21, la chronique économique, avec Amit Faljaoui.
On pourrait croire que c'est simple, la Russie a envahi l'Ukraine, l'Europe a gelé ses avoirs et maintenant certains voudraient utiliser donc cet argent gelé pour financer la défense ukrainienne. Sur le papier, c'est totalement logique, mais dans la réalité, c'est une autre histoire. Car derrière ces 140 milliards d'euros d'avoirs russes bloqués se cache une question bien plus large. Jusqu'où peut-on aller sans casser donc les règles du jeu économique mondial? Prenons un exemple, la Russie, elle, a déjà commencé à répliquer à l'Europe. Moscou accuse l'Europe de vol pur et simple, et pour répondre, le Kremlin d'ailleurs a signé début octobre un décret autorisant la confiscation d'entreprises étrangères venant de pays jugés entre guillemets inamicaux. Air Liquide, Danone, Carlsberg, et bien leurs filiales russes ont déjà été placées sous administration d'État. C'est la riposte. Tu touches à mes avoirs, je touche aux tiens. Alors pourquoi est-ce que toutes les entreprises occidentales ne quittent-elles pas encore la Russie? Parce que partir, tout simplement, leur coûte une fortune. Les autorités russes impose une décote de 60%, une taxe de 35% et un paiement étalé sur 2 ans. Autant dire que vendre, c'est brader. Résultat, sur plus de 4000 entreprises étrangères recensées en Russie, seulement 12% ont vraiment tiré un trait. Les autres, elles maintiennent une activité minimale en espérant que la tempête passera. Mais au fond, ce dossier dépasse les intérêts des entreprises. Il pose une question de principe. Est-ce qu'on peut, oui ou non, au nom de la morale, changer les règles de la propriété? Et c'est vrai que depuis des décennies, le monde économique repose sur une sorte de pacte tacite. Les biens déposés à l'étranger sont protégés, même en cas de crise politique. Et si l'Europe décide de s'en affranchir pour la bonne cause, donc l'Ukraine, d'autres pays pourraient, demain ou après-demain, en faire autant, pour de moins bonnes raisons. Et c'est justement ce qui inquiète notre beau pays, la Belgique, parce que la majorité de ses avoirs russes dorment à Bruxelles, si je puis dire, dans les coffres de la société Euroclear. Et donc la Belgique se retrouve donc en première ligne et elle hésite. D'ailleurs, notre ministre des Finances l'a dit très clairement, si on utilise seul cet argent, on prend un risque énorme. D'abord un risque juridique, la Russie pourrait attaquer en justice, mais surtout un risque de réputation. Les pays du Golfe, la Chine, l'Inde, la Turquie ou d'autres puissances pourraient se dire « Mais finalement, garder notre argent en Europe, ce n'est pas si sûr que ça. » Et là, le danger serait bien plus large. Si l'Europe devient un endroit où les avoirs financiers peuvent être saisis, confisqués selon les circonstances, alors beaucoup d'États vont retirer leur argent et le mettre ailleurs. Et c'est pour ça que la Belgique demande que toute l'Europe partage la responsabilité, que ce soit une décision collective et pas une initiative isolée. En clair, on est d'accord de le faire, mais pas seul. Alors oui, utiliser l'argent russe pour reconstruire l'Ukraine paraît juste, mais c'est un jeu d'équilibriste. Si l'Europe agit trop vite, elle risque d'affaiblir la confiance qui, vous le savez, fait tourner le système financier mondial. Et sans confiance, plus personne ne laissera son argent en Europe. Et c'est peut-être ça le vrai dilemme. Comment punir une guerre sans déclencher une autre crise, une crise de la confiance?
Réécoutez la chronique économique sur Ovio.